Oui, Seigneur Jésus, Claude a besoin de ton Saint-Esprit pour nous transmettre ta parole, ces paroles qui sont pour nous. Et Seigneur, je te demande aussi d'ouvrir nos cœurs pour pouvoir recevoir ces paroles qui nous sont adressées. Amen.
Amen. Merci. Frères et sœurs, en Jésus, je vous salue chaleureusement. Si vous avez froid, vous pouvez vous lever, vous frotter les mains, je ne prendrai pas offense. Ou bien, si vous connaissez bien le voisin, la voisine, vous vous blottissez contre lui. Nous étudions l'épître de Jacques et toute bonne chose a une fin. Nous sommes à la fin de l'épître de Jacques. Vous êtes ici dans une église qui croit que les Écritures saintes sont normatives pour diriger la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas les Écritures saintes plus une tradition d'interprétation. C'est l'Écriture sainte. Ce qui fait de cette église une des églises du protestantisme. On revient à la doctrine des apôtres. Et la doctrine des apôtres, nous les avons dans la Bible. Seulement, vous et moi, nous avons des traditions. Ce qui fait que quand on entend une prédication, nous avons affaire avec nous-mêmes. Et dans ce passage, vous allez voir, ce sera le cas aussi. Un remède pour la faiblesse. Je n'ai même pas dit un remède pour la maladie. Vous allez voir que notre vocabulaire français est très souvent pauvre par rapport à ce qu'on peut découvrir dans un texte avec sa richesse et ses précisions, spécialement chez Jacques, qui utilise un grec des plus précis et des plus élaborés. On se demande comment ce juif, frère ou demi-frère du Seigneur Jésus lui-même, colonne de l'Église du temps de l'Église primitive, eh bien, pouvait arriver à une élaboration si précise du grec. Un remède pour la faiblesse, l'onction d'huile ou l'onction des malades. Dans la tradition de l'Église, c'est-à-dire pendant 10 siècles, on en faisait l'extrême onction sur ce seul passage. Ce qui fait que même parfois chez les évangéliques, c'est vraiment à l'extrême qu'on a recours à cela. La tradition nous colle à la peau plus qu'on le croit. Nous allons faire une lecture. Néanmoins, j'aimerais ici dire quelque chose encore en introduction. Les premiers disciples, quand ils se réunissaient, ils ne rappelaient pas simplement chaque fois l'histoire de Jésus. Ils pratiquaient et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Ça, c'est comment on vit une fois qu'on est devenu chrétien? C'est pas comment on devient chrétien, c'est comment on vit une fois devenu chrétien pour continuer à glorifier par notre vie et notre situation le Seigneur Jésus et que son règne se propage. C'est ça la doctrine des apôtres, c'est-à-dire ce que les apôtres se sont souvenus que le Seigneur Jésus a dit. La doctrine des apôtres, ils persévéraient dans la doctrine, dans l'enseignement des apôtres. Avant que je lise Jacques chapitre 5, versets 13 à 20, j'aimerais vous montrer l'image suivante et vous faire un petit commentaire. L'image de droite se réfère à ce que j'ai dit dans la prédication de dimanche dernier, lorsque je vous ai dit « je connais quelqu'un qui vit sous un pont dans des cartons ». Vous vous souvenez ? À Lausanne. Vous vous souvenez pas ? Si, je l'ai dit. Je suis repassé, le carton n'est plus là. Il vaut mieux, n'est-ce pas, cette semaine ? C'est une bonne nouvelle. À sa place, la personne devait probablement être accueillie par une institution que des gens, ici, ont mis sur pied et que l'on peut appeler des institutions bas seuil. Marie-Laure, qui est parmi nous, a eu la gentillesse de me donner un certain nombre, 8, d'institutions qui s'occupent de ces personnes-là. N'est-ce pas ? Qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit une institution chrétienne pour que ça vaille la peine que des chrétiens soutiennent, s'engagent et soient éventuellement bénévoles. Ou bien, quel est votre avis ? C'est vrai ? Je peux l'afficher en bas, ce quiconque voudra une copie pourra simplement la copier. Bien sûr, à propos de cette image, on peut toujours discuter entre nous du fait que nous pensions qu'en tant que chrétiens, nous ayons à aider les sans-papiers ou les sans-logements. Dans notre pays, et que ce souci soit plus grand que notre aide à des gens qui sont dans d'autres pays. On peut en discuter. À gauche, je rebondis sur l'étude de dimanche dernier. Nous aurons un atelier biblique ici, le mardi soir, comme nous l'avons habituellement, pas toutes les semaines, mais régulièrement. Le 14 février, nous traiterons à 18h30 ici la question de l'argent serviteur. L'argent serviteur. Vous corrigerez l'or dur, qui est la mention du titre donné pour cet atelier dans vos feuillets mémo. C'est une erreur de ma part, c'est ça le thème, l'argent serviteur. Jean Villard l'animera. De même, si vous avez des remarques, des questions par rapport à ce que nous allons voir ce matin, nous aurons un atelier biblique le 20 mars, c'est pas tout de suite, il fera peut-être un peu plus chaud d'ici là, sur l'onction d'huile. Qui est concerné finalement par la prière associée à de l'onction d'huile ? Qui est concerné ? Le mardi 20 mars, 18h30. J'ai trouvé sur Internet ce texte. Vous pardonnerez les fautes d'orthographe, mais j'ai pensé qu'il y a là une attitude néfaste qui est commune. Ne montre jamais tes faiblesses et dans les pires moments reste forte. Féminin, c'est peut-être une dame qui l'a écrit. C'est très facile à dire, dans les pires moments reste forte, n'est-ce pas ? Ne montre jamais tes faiblesses. Ravale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle arme. Ravale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle arme. Laissez-moi juste vous dire que si c'est peut-être noble, je donne pas cher de la personne qui essaiera de vivre ceci quand ça va mal. Ne montre jamais tes faiblesses, sinon tu perds ta fierté. J'ai trouvé sur Internet en tapant faiblesse et image, d'accord ? C'est une sagesse bien humaine. Est-ce qu'elle est bien vaudoise ? Je ne sais pas. Elle est très alsacienne en tout cas. C'est l'attitude de Tartuffe. Ne montre pas dehors ce qui est en fait dedans. Je Je ne sais pas comment cette personne va psychosomatiser. Soma, ça veut dire le corps. Psycho, c'est la tête. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle veut se sauver toute seule. Ne surtout pas dépendre de l'aide d'autrui. Je vais vous montrer une autre photo. Celle-là, je l'ai prise pas loin d'ici. Je l'ai prise, la prochaine, derrière la chapelle Frey, l'ancienne de Renan. Il y a quelqu'un qui a écrit contre la chapelle « God does not care because he is powerful ». Autrement dit, Dieu ne peut pas apporter le soin car il est tout puissant. Je le traduis comme je le comprends. Pardon ? Oui, mais j'osais pas le dire. C'est un avis. À Renan, je l'ai prise il y a quelques jours. Toutefois, vous allez voir que chez Jacques, nous allons faire la lecture très bientôt, nous allons découvrir quelque chose de très important. Toi et moi et lui et elle et tout le monde, malgré les apparences, nous sommes fragiles. Toi et moi, lui et elle et tout le monde, nous sommes ce que l'apôtre Paul appelle des vases de terre. Nous sommes là pour une fonction, être remplis d'un trésor. Mais ne confondez pas le trésor et le vase de terre. Et le vase de terre reste vase de terre et fragile. Même après la plénitude du Saint-Esprit. On devrait tous naître avec un écriteau ici fragile. Seulement on le perd au bout de quelques années. Revenons maintenant à l'épître de Jacques. J'en fais la lecture dans la traduction TOB. La fois dernière, nous avons vu ce qu'il dit au sujet de la compensation par la richesse sans fin et l'oubli des autres. Nous arrivons maintenant à ce texte. L'un de vous souffre-t-il qu'il prie ? L'un de vous est-il joyeux ? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il sans force, malade, disent nos versions, qu'il fasse appeler les anciens ou les presbytres de l'Église et qu'il prie. Et après avoir fait sur lui une onction d'huile, d'olive, au nom du Seigneur, la prière de la confiance, de la foi, il y a marqué, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres, et prier les uns pour les autres, afin d'être guéris. La requête d'un juste agit avec beaucoup de force. Élie, c'était un homme semblable à nous, c'est-à-dire fragile. Il pria avec ferveur ou instance pour qu'il ne plût pas et il ne plût pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie, la terre produisit son fruit. Mes frères, mesdames, vous n'êtes pas exclus. Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné, loin de la vérité et qu'on le ramène. Sachez que celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait lui sauvera la vie. Et, en plus, fera disparaître une foule de péchés. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu, c'est la fin de l'épître de Jacques. Frères et sœurs, je refuse de couper là-dedans, il y a une logique d'ensemble. Il y a des gens qui voient l'épître de Jacques comme un pot rempli de perles. Mais ce n'est pas un pot rempli de perles qui n'ont pas de relation les uns avec les autres, où on pourrait juste prendre un verset. C'est un collier de perles où tout se tient depuis le début jusqu'à la fin. Et faute de l'avoir vu, les gens interprètent dans toutes sortes de sens. La faiblesse de l'humain ne limite pas la puissance de Dieu. Dieu veut pénétrer la faiblesse de l'humain. Nous continuons. Vous vous souvenez de la rencontre de Thomas avec Jésus. « Moi, j'ai besoin de toucher. Mets ton doigt dans mon côté, » dit Jésus. Et à un moment donné, Jésus dit à Thomas, le douteur, et lui dit « Thomas, bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » C'est notre situation. Vous n'avez pas Jésus ressuscité devant vous pour mettre les mains dans son côté. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Nous avons entendu le témoignage des apôtres, c'est pour ça que nous sommes croyants dans l'Évangile. Heureux qui croient sans voir encore. Maintenant, je vous ai dit quelque chose d'important. Nous sommes ici en Palestine, en Jérusalem. Jacques écrit de là, c'est le pilier d'une église qui connaît des épreuves. Nous en avons la preuve depuis le chapitre 1, verset 12. On voit que c'est écrit dans l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'épreuve ? Dans l'épreuve, je vous lis simplement un cas de figure de ce qu'a vécu cette église à Jérusalem. Et puis après, je vous demande comment vous vous sentiriez, vous, en tant que disciple de chrétien dans cette situation, d'accord ? C'est Étienne. Il est devant le Sanhédrin, c'est-à-dire la cour suprême en Israël. Et il parle de Jésus. Et ce Sanhédrin, cette cour suprême en Palestine-Israël du temps de l'Église primitive avant l'an 70, eh bien, était agacé parce que Étienne rappelait ce que Jésus disait, qu'il n'y a pas une pierre qui resterait l'une sur l'autre si on ne croyait pas en la doctrine de Jésus. Le Sanhédrin était agacé, nous vous avons ça, chapitre 6, verset 7, de Livre des Actes, et je lis à partir du chapitre 7. « Homme au cou raide, dit Étienne, incirconcis de cœur, incirconcis d'oreille. Toujours vous résistez à l'Esprit Saint, dit-il au Sanhédrin. Vous êtes bien comme vos pères, lesquels, des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. » Celui-là même que maintenant vous avez trahi, vous avez assassiné. Vous aviez reçu la loi promulguée par les anges et vous ne l'avez même pas observée. Ces paroles exaspérèrent les Juifs et ils grincèrent des dents contre Étienne, mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixa le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, puis tous ensemble ils se jetèrent sur Étienne, l'entraînèrent hors de la ville et ils se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, futur Paul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne prononçait cette invocation, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et sur ces mots, Étienne mourut. Ce jour-là, éclata contre l'Église de Jérusalem une violente persécution. Tous, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison à cause du témoignage de Jésus. Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Frères et sœurs, quand on lit l'épître de Jacques, il faut entendre une lettre que ce genre de gens de l'église de Jérusalem reçoivent. Quand on est persécuté à cause du nom de Jésus, les tentations, les premières qui viennent à l'esprit, c'est d'éviter la persécution. Là, il y a un climat d'épreuve et il faut comprendre ce passage de l'onction d'huile et de la prière dans ce contexte-là. Très vite, celui qui dit « Oh, je vais moins confesser Jésus », il s'installe en lui un amour pour Jésus, mais en même temps, en lui, « Je suis un chrétien deuxième classe. Je suis un rétrograde. Je suis quelqu'un qui est honte de Jésus. » Dans l'épreuve, s'installe dans ce genre de calcul, soit la compensation dans l'argent, dans l'activisme, soit la compensation dans la révolte, parce que ce n'est pas juste, soit une tristesse qu'on a appelée déjà dans le passé tristesse mondaine. Voici une situation de faiblesse très naturelle quand vient la persécution. Vous allez pas me vendre l'idée que quelque part dans ce monde, quand il y a la persécution, toute l'Église fait bloc net. Une persécution révèle bien souvent notre fragilité, notre faiblesse. C'est ainsi que, quand on relit le passage que nous avons lu, nous voyons que c'est contre la résignation, contre le fait qu'on rentre dans une dépression spirituelle, qu'un remède est donné, heureusement, par l'Écriture. Déjà en Jacques 1, verset 12, il s'agirait d'endurer l'épreuve, car la couronne de vie est promise. Nous allons continuer. Nous allons parler de l'onction d'huile. Vous avez vu qu'il est question d'huile. L'onction d'huile, ce n'est pas le sujet premier du passage que nous avons vu. Le sujet premier, c'est la prière. C'est la prière avec l'onction d'huile qui est le remède. Vous avez remarqué dans le passage? Pour quelqu'un qui est en situation de faiblesse, il y a l'onction d'huile. C'est un geste, c'est une démarche qui est faite. On sait que l'huile, on peut en avoir, si vous apportez 5 kilos d'olive, vous avez sans doute à peu près 1 litre d'huile. Enfin, je sais que ce n'est pas tout à fait notre pratique. Nous allons dans les magasins. Mais c'est un fruit qui est broyé avec des meules de pierre et qui accompagne simplement la vie normale de tout le monde. Dans tous les foyers en Palestine, vous avez de l'huile d'olive. Ça sert à avoir de la lumière à partir du soir. Ça sert à manger. C'est des éléments basiques pour la vie, et il y en avait par conséquent dans tous les foyers. Mais il faut aussi savoir que cette huile-là servait, d'un point de vue religieux, pour 3 catégories de personnes dans l'Ancien Testament. Vous savez pour qui on se servait d'huile? Les rois, certains prophètes dans certains cas, et les sacrificateurs dans le temple. Maintenant, j'aimerais simplement vous rappeler ici que l'huile, ici, dans la dimension plus religieuse, et pas seulement dans la dimension de médicaments, ce qu'on verra encore, ça reflète ce que Dieu donne à certaines personnes pour les qualifier en vue d'un service. L'huile reflète ce que Dieu donne dans certains cas pour refléter certains services. Jésus dit à son Église, même dans sa fragilité, « Vous êtes la lumière du monde. » Pour rester lumière du monde, il faut revenir à une situation de chrétien première catégorie et pas deuxième choix. Nous passons à l'huile. Nous avons parlé de l'huile. J'aimerais simplement vous dire aussi autre chose. L'huile a une autre fonction, le repas, le fait de manger, le fait de consacrer pour une fonction, mais il y en a une qu'on ne doit pas oublier. C'est un médicament. L'huile empêche des bactéries qui ont besoin de l'oxygène de se développer. C'est la raison pour laquelle on met de l'huile pas seulement sur le front, mais sur les plaies. La preuve, le bon samaritain, il met de l'huile et du vin, qui contient un peu d'alcool, sur les plaies, comme premier secours. L'huile, médicament, ou l'huile, esprit, qui remet à part pour le service, c'est très difficile de trancher cette question. Ou l'huile pour redevenir de nouveau lumière du monde alors que j'ai perdu mon éclat de disciple du Seigneur Jésus. Nous continuons. Le thème de ce passage que nous avons lu, c'est la prière de la foi, la prière de la confiance. La prière de la confiance, on en a besoin. Il y a des maladies qui ne se soignent pas avec de l'argent, pas avec de la chimie. Il y a de la maladie qui se soigne avec de la chimie plus de l'amour. Mais ici, c'est des maladies qui se soignent avec Dieu aimant, le manifestant par la solidarité de l'Église dans certaines situations et cas de figure. Ce qu'une personne qui est en situation de faiblesse a besoin, c'est d'être relevée par l'espérance. Juste avant ce passage, on voit qu'il s'agit de s'abstenir du double langage. Un chrétien qui prie d'une manière et qui pense autre chose, il ferait bien d'arrêter de prier de cette manière et de prier ce qu'il pense devant Dieu, de demander pardon pour être authentique et vrai. C'est la raison pour laquelle vous avez aussi une référence à la demande de pardon dans ces passages. S'abstenir du double langage hypocrite, parce que c'est un poison intérieur. Si vous voulez un jour que vos enfants, si Dieu vous donne la grâce d'avoir des enfants, s'ouvrent à la foi, le mieux c'est d'être intègre, parce qu'eux ne sont pas dupes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un miracle spécial pour qu'ils suivent le Seigneur, mais des parents qui ont un cœur intègre, c'est ce qui parle le plus encore à des enfants. Vaincre l'impatience et la dépression spirituelle. Si quelqu'un est faible, qu'il fasse appeler les anciens par une spiritualité qui remet le Dieu vivant au centre. Vous avez vu, si quelqu'un souffre, comme les prophètes, ils souffrent. Jésus n'a jamais dit, venez, c'est une partie de plaisir de me suivre. Ou bien, c'est du plaisir au fond, mais pas toujours en surface. Qu'il prie individuellement. Si quelqu'un est joyeux, qu'il chante des cantiques, individuels ou collectifs, hein, qui exprime quelque chose. On ne trouve pas souvent la mention de chant dans le Nouveau Testament, mais ici, ça revient. Qu'il chante sa joie devant Dieu. Mais si quelqu'un souffre d'asthénie, vous avez vu, j'ai mis asthénie, vous savez en français ce que ça veut dire? Sténos, c'est la force. Asthénos, ça veut dire le manque de force. Le mot malade en français, c'est ce mot grec. Si quelqu'un est asthénique, il y a des médecins ici, ils peuvent comprendre et pourraient expliquer à leurs voisins. En fait, c'est une manière de dire quelqu'un est malade, il est sans force. Vous connaissez des malades qui pètent la forme? Non. Si quelqu'un est asthénique, qu'il fasse venir les anciens. Ça veut dire quoi? L'initiative, ce n'est pas l'ancien, c'est la personne qui est en situation de manque de force. Il faut de la force pour faire venir les anciens. Il faut au moins être conscient que quelque chose ne va pas. Si je suis l'Alsacien ou le Vaudois moyen, je dis, moi je m'en sors tout seul. Et on s'enfonce dans un bourbier de la rancune, de la compensation. C'est pour ça que l'épître de Jacques termine dans ces situations. C'est une prière collective et qui est faite au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire, en vertu de la puissance qu'il a de relèvement, Donc littéralement, l'asthénie, c'est être sans force, qu'on traduit par maladie. On continue. Le but, c'est que la relation soit rétablie. Quelque chose en moi peut être cassé. Les mobiles peuvent être très divers, mais le ressort en moi est cassé, on dira aujourd'hui. Il n'y avait pas de ressort du temps de Jésus. Et les uns et les autres, nous constituons ce que le Seigneur, dans son plan, prévoit comme un lieu de guérison. Mais est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que je suis en train de vous dire que c'est bien plus large que les maladies physiques extrêmes qui sont concernées par ce passage? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est bien plus large et beaucoup moins extrême onction qu'on le croit. Qu'il fasse venir les anciens. Les anciens, c'est le groupe pastoral. C'est toujours un collectif. C'est une reprise du fonctionnement de la synagogue. C'est comme ça que fonctionne l'Église, en collectivité pastorale. Qu'il fasse venir les anciens. Qu'il prie. C'est ça le thème. Ce n'est pas l'onction d'huile le thème, c'est la prière. Il prie qui ? Dieu. En oignant d'huile, cette sorte de remise en route de la fonction et de la mission même de chacun d'entre les baptisés. S'ils ont des péchés, ils leur seront pardonnés, mais qu'ils confessent les péchés. La faiblesse n'est pas un péché, mais le doute à la base de la faiblesse est un péché. Le doute que Dieu prendra soin de moi, le fait que je veuille me sauver moi-même est un péché aux yeux de Dieu. Et le relèvement est promis. Relèvement ? Je suis abattu, je peux être relevé. Je peux être au lit, malade, avec beaucoup de fièvre, et je peux me relever. Dans quel cas, c'est une lecture littérale. Je peux être abattu, déprimé, parce que je ne supporte plus de trahir extérieurement le Seigneur Jésus, alors qu'intérieurement je l'aime, et je commence à vivre quelque chose de très difficile, je suis abattu. Et le Seigneur me promet de me relever. Ceci est dans l'épître de Jacques, nous pouvons continuer. Maintenant, j'ai mis devant vous quelque chose qui ne peut pas vous paraître technique. J'ai quand même besoin de vous le dire. Il y a dans l'Écriture des dons de guérison. Ce n'est pas nécessairement les anciens. Il y a des dons, des dons de guérison. 1 Corinthiens 12. Ça peut être chacun et chacune d'entre nous qui reçoit ce don particulier. Il n'y a pas que les anciens qui sont concernés dans le cas d'une guérison. Mais dans le cas de quelqu'un qui est en danger de s'éloigner de la foi, les bergers sont concernés au premier chef. La faiblesse qui est là concernée n'est pas avant tout n'importe quelle maladie physique, c'est avant tout le danger qui mène quelqu'un loin de la foi du Seigneur Jésus, par peur des conséquences. Le diable peut rendre le mal attrayant à cause des promesses qu'il peut donner à un moment donné. Tu fais le culte à l'empereur, un tout petit truc de 2 minutes et tu peux continuer ton commerce. Tu refuses de faire le culte de l'empereur à peu près au l'an 90 après Jésus. Tu as perdu ton commerce, tu as perdu ta situation économique. Et beaucoup de gens étaient tourmentés à cause de l'attrait que le diable lui-même donnait dans les cas de compromis. Vous comprenez ? Habituellement, on interprète ça de la manière suivante. Il s'agit des malades physiques. Et c'est une promesse absolue, mais comment comprendre que dans l'absolu, tous les gens à qui on fait l'onction d'huile avec la prière, le Seigneur les relèvera? Pour moi, je ne crois pas qu'on puisse dire que le Seigneur est engagé à relever tous les malades. Par contre, nous le verrons tout à l'heure, il y a une autre dimension. Que faites-vous des non-guéris ? J'ai connu des gens qui, se basant là-dessus, ont fait une prophétie à quelqu'un, « Le Seigneur te relèvera ». Ce n'est pas arrivé. Qui se trompe, le Seigneur ou sa lecture ? Quel péché doit être confessé si c'est un malade ? Il y a des malades, ce n'est pas à cause de péchés particuliers, c'est à cause de la chute plus générale dans laquelle nous sommes. Pourquoi il est dit, Il est question du salut dans ce passage. Pourquoi les anciens doivent-ils intervenir dans ce cas de figure d'une maladie qui est uniquement physique? Pourquoi confesser les péchés et pourquoi alors cette fin dans l'épître de Jacques? Une autre interprétation que je vous laisse du côté gauche, qui me semble intéressante, le Seigneur dit que celui qui est sans force fasse venir les anciens qu'on prie. Il est question d'asthénéi en grec, je vous dispense du sens, l'important est plutôt ce qu'on peut retenir. Dans ce quel cas, il est question de guérison intérieure, de faiblesse de tous. Il s'agit de confesser les péchés les uns aux autres parce que nous sommes dans notre fragilité. Ici, n'importe quel médecin ici, depuis à peu près une cinquantaine d'années, vous dira « le psychosomatique est plus important qu'on le croit ». C'est-à-dire le trouble intérieur qui se manifeste par des manifestations physiques. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout à fait séparer l'un de l'autre. Si des péchés ont été confessés, ils seront pardonnés et il est sauvé dans ce cas de figure et relevé. Et celui qui est égaré loin de la vérité, qui est ramené, une multitude de péchés sont couverts. Je voulais vous montrer ceci pour que vous voyiez ce qui est en jeu avec la lecture de ce passage. Nous continuons et nous arrivons vers quelques conclusions. La première des choses, frères et sœurs, que je voudrais vous rappeler ici, c'est que nous sommes tous concernés. Que ce passage concerne bien plus de personnes et de situations que ce que nous croyons habituellement. Nous sommes responsables de l'onction du Seigneur Jésus ravivée dans nos vies. Nous sommes responsables, ça veut dire que nous devons nous prendre en main quand nous sentons qu'il y a un découragement, une tentation majeure de vouloir éviter quelque chose pour ne pas obéir au Seigneur Jésus. La prière fervente ou rendue efficace du juste a une grande efficacité, aussi dans l'épreuve. La prière du juste a une grande efficacité, aussi dans l'épreuve. Ce que Jacques veut dire, c'est « Église du Seigneur Jésus, tu es prophète dans ce monde, tu es lumière dans ce monde. » Les prophètes dans ce monde n'ont pas que l'acquiescement des gens à qui ils s'adressent. La leçon, c'est que contrairement à ce que nous croyons, la gloire de Dieu peut se manifester dans n'importe quel corps, vase de terre fragile, et à n'importe quelle situation aussi, dans le cas où nous devions, comme du temps des premiers chrétiens à Jérusalem, quitter le chez-soi à Jérusalem pour aller même en Samarie. Ce qu'on peut retenir par rapport à ce que dit Jacques, c'est que même dans l'épreuve, Dieu a un plan. Les chrétiens sont obligés d'avoir de la contrariété majeure, de telle sorte que, allant ailleurs encore, ils apportent la bonne nouvelle du royaume. Ceci nous échappe tout à fait. Tellement, nous vivons dans une société qui s'occupe du bien-être individuel. Nous avons, grosso modo, évacué Dieu du traitement et du soin que nous recevons. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une grande actualité à ce passage de la fin de l'épître de Jacques. Heureux celui qui croit sans voir encore. Nous continuons pour terminer. La puissance de cette prière. Le modèle d'Élie nous est donné. Élie a fait d'autres miracles plus tape à l'œil que celui que Jacques donne. Élie est quelqu'un qui a tenu pendant 3 ans et demi comme prophète. Le 3 ans et demi revient très souvent dans l'Écriture. C'est le symbole dans l'Écriture, dans l'Apocalypse par exemple, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. 3 ans et demi, c'est le symbole de la durée de la persécution. C'est un chiffre symbolique qui montre que c'est Dieu qui est aux commandes. Il dit 3 ans et demi. C'est manifesté en jour. Élie nous est donné comme modèle de quelqu'un qui croit parce qu'il est en lutte contre les puissances injustes de son temps qui s'appelait l'idolâtrie de rois, de reines, et ce n'est pas une partie de plaisir que de l'être. Mais la puissance de cette prière est extraordinaire, c'est la prière de confiance en Dieu. Élie n'est pas un magicien. Élie est quelqu'un qui savait être solidaire de Dieu, et tellement solidaire de Dieu qu'il était capable de résister contre des forces puissantes. Ça, c'est aussi la situation de l'Église. La prière de la confiance sauvera le malade. Élie nous est donné pour nous dire que l'Église également, elle est comme un prophète dans ce monde, apportant une parole de guérison de la part du Seigneur. D'ailleurs, ce n'est pas Élie qui a fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, c'est après 3 ans et demi, c'est le fait que les gens aient confessé leurs péchés, dans 1 Roi 18, 39, qui a fait qu'il a pu dire « Seigneur, maintenant, apporte la pluie ». Ce n'est pas le magicien Élie qui a fait ça par sa foi, c'est parce que Dieu est bon et qu'il aime bénir et redonner la pluie une fois que les péchés sont confessés. On trouve ça dans l'Épître, dans 1 Roi chapitre 18. L'important ici avec Élie, c'est de comprendre qu'il s'agit de prier selon la volonté de Dieu. Dieu, qui sait le temps, nous permettra de tenir. C'est ça qui est important pour nous, de nous donner la force. Il n'est pas indifférent au fait que nous avons besoin ici et là d'avoir la force du Seigneur. Et la prière de confiance sauvera le découragé, le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Le but est de restaurer en lui le témoin de Jésus-Christ. Avant une conclusion de l'épître, je vous montre une image qui me paraît être aussi forte que de l'huile et qui correspond à notre société. Nous avons besoin de peps. Nous avons besoin de vitamines. Nous tous. Nous avons besoin pour tenir de la communauté du Seigneur Jésus. Et je conclue. La première, c'est de cultiver une spiritualité où le Dieu au cœur large et généreux et reste au centre. C'est lui qui mène l'histoire à son but, ainsi que nos vies. L'Église doit se préoccuper de la faiblesse de nous tous. Le relèvement en question a pour lieu la communauté chrétienne. Elle inclut toutes sortes de procédés, la prière les uns pour les autres, les encouragements qu'on peut se donner les uns pour les autres, les prophéties qui sont des paroles pour encourager à rester ardemment attachés au Seigneur. La deuxième, ne négligeons de ce fait pas cette aide communautaire proposée par le Seigneur. L'important est de rester en route fidèlement, car le Seigneur vient. Ce qui est demandé est, en cas de asthénie spirituelle, de manque de force, de faire cette démarche, de déclencher cette démarche où le Seigneur peut me rejoindre et me relever intérieurement. C'est donc un sens bien plus large que pour les maladies physiques, un sens bien plus en lien avec la mission que nous avons. Je vous invite à la prière. Tu as été envoyé, Seigneur Jésus, vers les brebis égarées d'Israël, mais tu continues ton œuvre aussi au travers de nous, lorsque nous-mêmes, nous sommes dans des impasses. Seigneur, merci de venir devant notre fragilité, de nous aider là où nous en avons besoin. Seigneur, que ton huile, l'huile de l'onction qui nous envoie, nous touche tous et nous ravive la flamme. Amen.